low down, dirty loser.
Hell, baby.
Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes sur Radio Galère 88.4. Vous êtes sur l'émission L'Art Osé, tous les troisièmes lundis de chaque mois de 16h30 à 18h. Une émission culturelle. On parle de musique, on fait des lives, on parle de théâtre, on lit des textes. Et aujourd'hui, en ce mois de février, on reçoit Oussama. Oussama Essid. Oussama, bonjour. Oussama, bonjour, pardon, tu t'es pas allumé.
Bonjour Ilan, merci pour l'invitation.
Ben, merci à toi Oussama. Aujourd'hui, avec Oussama, on va parler de la musique Chaabi, une musique qui est née en Algérie, et plus précisément à Alger. Dans quel quartier ?
Un peu autour de la Casbah d'Alger, on va dire le quartier historique, le quartier métique, enfin le cœur de la ville, c'était la Casbah d'Alger, en haut du port. Donc cette musique est aussi en lien avec le port parce qu'elle tisse des liens un peu partout autour de la Méditerranée et elle s'inspire de tout ça.
Eh bien, on est bien à Marseille pour parler de tout ça, c'est aussi une ville portuaire. Tout de suite, pour rentrer dans le vif de notre sujet avant de raconter l'histoire, la composition et l'engagement de cette musique, on écoute un extrait d'une musique de Mohamed El Anka qui s'appelle
El Ferak, la séparation.
El Ferak, c'est tout de suite sur la rosée.
سايل واقف حقير في عتبة الابواب نرجع وعد الفضيل بالدمع السال مصرفوني بكل ما نتقو بجوال في عين الهوى تبقى قلبي حاصل في باب الجفين في باب الجفين مطمع كأنني ساجن أشطمع في باب الجافيين تلقى حين غلقوا في وجهك بابه مسكون باب الجافيين تلقى حين غلقوا في وجهك بابه مصدو اطلبت الله في حولك ان يجود يغضى اقضى مولاك على تمام وعدوه اتقضي الهنا الحبيب ثم الغطا بالسرور والفرح ايام لا يقوم تردي حسس باب داوم السهر عيوني في الضياج ما نزول على حبك يا طبيب دايا نو يبلح بخباري في سواق الله يا
C'était un extrait d'un live d'un concert de Mohamed El Anka. Alors Oussama, pourquoi cette musique là, pourquoi ce choix d'extrait là pour introduire toute cette histoire de la musique chaabi?
Bah, pour introduire cette histoire là, on était en train d'écouter Hadj Mohamed El Anka, de son vrai nom Mohamed Lahlou. El Anka, c'est un, enfin, on va dire c'est un nom d'artiste qui veut dire le phénix. Et El Anka, c'est quelque, on l'appelle aussi le cardinal de cette musique-là, c'est-à-dire que c'est lui qui, en gros, a codifié toute cette musique-là, voire il l'a créée, quoi. Il l'a créée sur différentes manières, c'est-à-dire que c'est lui qui a fait l'orchestration, c'est lui aussi qui est parti chercher les textes. Là, on écoutait une qsida, ça veut dire une poésie. Là, c'est une longue poésie, on écoutait juste un petit morceau, parce que ça peut aller, les poésies peuvent être chantées jusqu'à 45-50 minutes, et celle-là, je pense qu'elle fait dans les 40 minutes une fois chantée. J'expliquerai après sa structure musicale et poétique. Donc, il est parti chercher ses paroles un peu loin, donc début des années 20, voire avant, parce qu'il avait commencé une carrière quand même de musicien avant, mais il s'appelait Cheikh Mohamed Al-Meddah. Al-Meddah, c'était des gens qui allaient dans des mariages pour fêter donc des soirées de mariage ou de circoncision ou toute autre forme de cérémonie qui ont un peu aussi un lien avec la religion, parce que le mariage c'est aussi une cérémonie religieuse où il disait des louanges, chantait des louanges. Il avait aussi un maître, donc commençait très bien dans ses aires géographiques et ses bassins civilisationnels. La transmission, elle est orale, donc de maître à élève. Et l'Inca arrive un moment, donc les années 20, avec toutes ces années, ce qu'on appelle les années un peu folles, c'était folle un peu partout, quoi. Et il commence à dire moi, j'ai envie de révolutionner tout ça. Donc il va voir tout d'abord un luthier qui s'appelle Bilido, qui est d'origine italienne, parce que remettons-nous dans le contexte, là on est à la Casbah, donc à côté du quartier de Bab El Oued, limitrophe, où le quartier de Bab El Oued était essentiellement peuplé donc sous la colonisation par des communautés italiennes et aussi espagnols et diverses communautés, car au début de la colonisation de l'Algérie en 1830, les métropolitains français n'étaient pas très intéressés par aller coloniser ce nouveau pays que personne ne connaissait. Et l'administration de l'époque a été contrainte d'aller chercher un peu partout, où il y avait un peu la misère, pour promettre l'Amérique, le rêve américain, mais pour le coup, cette fois-ci, c'était le rêve algérien. Donc on a une grosse communauté de pieds noirs qui est d'origine italienne et maltaise, tous les pays un peu de la Méditerranée où il y avait un peu de misère, où les gens cherchaient un ailleurs meilleur, on va dire. Donc il va le voir pour lui dire « Construis-moi un instrument qui ressemble à la mandoline italienne. » Mais bon, l'Anka, comme on vient de l'écouter, il avait une voix un peu grave. Donc il cherchait un instrument qui correspond mieux à sa voix. Donc au lieu que ce soit une mandoline, il lui a fabriqué quelque chose d'un peu plus grand qui va sonner un peu plus grave. Donc il y a le mandol. Donc ça a commencé comme ça. Donc au niveau de l'orchestration, déjà il y a une révolution. On passe d'instruments traditionnels entre guillemets à ces nouveaux instruments qui par la suite ils ont été repris par différents luthiers. Je nommerai aussi un autre luthier qui jusqu'à aujourd'hui de père en fils construit ces instruments, et ces instruments sont un gage de qualité. C'est Monsieur Chaffa et toute la famille Chaba, Farid, le plus grand c'est Mohamed, c'est lui qui a commencé, et c'est des très 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 beaux instruments. Aujourd'hui c'est des instruments de collection pratiquement, et ils ont un son magnifique, donc voilà. Et par la suite, un peu dans les années va dire 40, il y a l'introduction du banjo qui remplace un autre instrument qui s'appelle le gumbri, qui était enfin un instrument à cordes avec une peau de tortue. Donc on imagine bien, enfin une carcasse de tortue plutôt, avec une peau de chèvre ou une peau de poisson, avec un fil et on jouait dessus, donc ça sonnait un peu métallique. Et le banjo arrive avec les Américains qui sont arrivés dans le port d'Alger, donc les DIs, pour libérer la France du nazisme. Et bien évidemment, ces gens-là, ils étaient des gens qui travaillaient, qui avaient beaucoup d'échanges au niveau du port. Donc voilà, tu me ramènes le banjo, ça sonne très bien, bah ça troquait, ça faisait des commerces, bah c'est la vie humaine quoi, enfin la vie de la cité, comme on peut, comme on a connu, on peut connaître dans tous les ports, des échanges et pas que marchands, des échanges aussi culturels, etc. Et donc il a introduit aussi le banjo, et il en a fait aussi deux banjos dans le sens où celui qui chante, il est accompagné par sa mandole, donc voix et mandole, et deux banjos, un ce qu'on appelle un banjo ténor et un autre un banjo guitare, c'est-à-dire en gros, il y en a un qui joue dans plus d'aigu et l'autre un peu plus dans le grave. Et pour les percussions, il y avait la darbuka traditionnelle avec un tar, qui est une sorte de tambourin, je ne sais pas si ça vous parle. Et donc c'est comme ça qu'il a créé déjà une orchestration pour ce style-là qui s'appelle le shabi, qui à l'époque ne s'appelait pas encore le shabi. Le shabi, c'est un journaliste à un moment donné qu'il a prénommé le shabi. Donc par la suite aussi il a créé, il a été un peu milité auprès de l'administration coloniale de l'époque qui donnait pas beaucoup d'importance à toute la culture on va dire indigène comme il l'appelait à l'époque entre guillemets, et donc il a quand même fait des mains et des pieds jusqu'à ce qu'il puisse avoir un espace pour enseigner cette musique là donc il a enseigné des dizaines et des dizaines de personnes, et cet espace, pour l'anecdote, était dans la mairie d'Alger. Ils lui ont donné un sous-sol, mais un sous-sol c'était genre un couloir, un petit passage dans une cave. Donc le shabi était enseigné par le hanga, a été orchestré par le hanga, a été pensé par le hanga, c'est pour ça qu'on a commencé par lui.
Mais du coup, il est tout seul au départ dans cette orchestration, ou est-ce qu'il y a quand même une communauté autour de lui d'autres artistes?
Bien sûr, il y a une communauté autour de lui en tant qu'artiste, mais c'est tout à fait normal. De toute façon, il n'a pas sorti ça de nulle part. C'est qu'il y avait déjà une dynamique et une synergie à ce moment-là qui permettait l'émergence quelque part de l'Angra et l'émergence de ce style-là. Mais tu m'as posé la question pour dire pourquoi j'ai choisi l'Angra. J'ai choisi l'Angra par rapport à tout ça. Mais bien évidemment, il y avait à l'époque des gens qui étaient de sa même génération qui pratiquaient aussi le shabi sans qu'il s'appelle shabi à ce moment-là, mais qui avaient une émergence d'un nouveau style, des jeunes des années 20 à peu près, ils étaient très jeunes d'ailleurs, ils avaient la vingtaine, qui ont commencé à jouer ça. Et puis c'est arrivé aussi avec les enregistrements, donc il y avait des disques, des 33 tours, etc., enfin des vinyles de l'époque qui commençaient à les faire connaître et un peu à les faire sortir un peu de leur milieu indigène là où ils étaient.
Et qu'est-ce qui est la raison, le sujet ou les thèmes qui sont à l'origine de la naissance du shabi? Pourquoi est-ce qu'un tel mot, de quoi parle en fait cette musique au niveau des paroles et peut-être même au niveau de ce qu'exprime la musique? Et pourquoi à ton avis elle est née? Et du coup qu'est-ce qu'elle a de différent avec la musique qu'il y avait avant en Algérie?
La musique qu'il y avait avant en Algérie, donc les Meddah, c'était une musique qui était plus basée sur des paroles, donc ce qu'on appelle des Qsaïd, celles qu'on vient d'écouter là. Et c'était plus des Qsaïd écrits par des maîtres soufis. Donc on peut revenir, et c'est des Qsaïd un peu anciennes. Donc là on parle du 14e, 15e, 16e, 17e, 18e siècle jusqu'au 19e siècle. Mais essentiellement des Qsaïd de maîtres soufis, donc avec beaucoup de spiritualité et des louanges, on va dire à Dieu ou au prophète, ou une façon de s'émerveiller aussi de la nature, de la création un peu divine un peu partout autour. Donc c'est une approche très très mysticiste. Donc les premiers sujets c'était un peu ça, mais par la suite ça s'est développé petit à petit. Donc celle-là qu'on vient d'écouter là, ça s'appelle de la séparation. On peut continuer à écouter peut-être la suite, et je vais faire une tentative de traduction de ce texte-là pour que le propos soit un peu plus clair aux auditeurs qui ne comprennent pas forcément l'algérois. Okay. Ou l'algérien.
C'est
ou
parti.
Le Maghreb.
Thank you.
وينتقل بريح بياتي لسواق يخبروا صيتي ويشرحوا معناها لو يجري بيا احكام العشاق بعد قاضي الهوان من الصفتان نزلت ولا نزول نلقاكم مشتاق حتى تنضروا وحن القامولة عيني للق الحبال متعوب ضياء ما تزول شايع للق الحباب عينك في النهار وفي الليل حرم للملاك حط عندي بالحال ونصب الخيان من فراق حبابي زاد الحزن حزني لا 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 راح لا عيش مستقر ما بقات بعد قصتي قصيرة طار طيري وفر التفصيل ملوك الراح بعد هجرة الأحباب الطايلة علي لا بشير يجيني من عندهم مرتاح يا إلهي وانت يا إلهي مضيع طارت أيام الهجرة والحياة والجراح يا إلهي
Alors Mohamed El Anka, la séparation, Oussama, de quoi ça nous parle?
Écoute, là, si vous avez bien remarqué, on a écouté deux morceaux, enfin deux passages. En fait, cette structure-là, ça vient d'une structure poétique qui déjà un genre poétique qui s'appelle le melhoun. Le melhoun, c'est un genre poétique maghrébin qui s'écrit en langue maghrébine. C'est pas connu, pas reconnu en tant que langue officielle malheureusement aujourd'hui, mais ça c'est un autre sujet. Mais c'est la langue du Maghreb qui est pas tout à fait la langue arabe et qui est plus une langue, on va dire, créolisée entre plusieurs influences.
Mais c'est ce que certains appellent le Darija ou ça?
C'est exactement la Darija. Et donc c'est une langue ancienne parce que depuis le 14e ou le 15e siècle, ça se parle. Donc on a remarqué que le Qsida maintenant, elle est qui veut dire, on va dire, une poésie. On avait deux couplets. On avait un couplet qui n'était pas rythmé, qui est ce qu'on appelle un istikhbar, comme un prélude, où ça nous permet de mettre en place le mode musical. Et puis, on introduit aussi le chant, et chaque hémistiche, après, est repris par un prélude musical. Donc il y a comme ça une question-réponse. Et puis on rentre un peu dans ce qu'on appelle le beat. Et c'est tout ce qu'on a écouté qui est rythmé. Et souvent c'est une structure de 6-6. Donc 6 vers, 6 vers. Là ça parle de quoi? En fait, la séparation, c'est une allégorie, on va dire, à plusieurs choses, c'est ça qui est intéressant dans cette poésie. Donc même si c'est des poésies soufis à la base, je pense que c'est écrit un peu dans ce sens là ça donne à tout un chacun la possibilité de l'interpréter à sa manière. C'est aussi une philosophie soufie. Donc je vais vous lire du coup l'istikhbar et un bait. Donc ça fait 6 et 6, ouais. Être séparé de vous, c'est mon enfer, ma blessure, mon trépas. Être avec vous, c'est mon paradis, mon allégresse, ma vie. Que vous, ma vie, sans votre retour, que vous, ma vie, sans votre amour, Votre consentement me fait revivre et remplit mes soirées de liesse. Votre consentement est mon pèlerinage, mon jeûne et ma prière. Le bait. Ma patience est anéantie, le fardeau de l'amour. Le fardeau de l'amour s'apesantit sur moi. La séparation a mobilisé ses bataillons et ses lances. Le prince de la rupture a campé avec puissante armée, ordonnant de me tourmenter matin et soir. Le refrain. Ô mon Dieu, aie pitié de moi, toi le généreux, mon exil, qui a trop duré, ravive mes blessures. Séparé de mes amis, des larmes coulent sans cesse de mes yeux. Voilà un peu un aperçu de ce que peut être un sujet d'une orcide.
Et ça, c'est dans les années 20 plutôt, comme thème.
Ça c'est un orcida qui date des, je pense, si je me dis pas de bêtises, qui date du 15 ou 16e siècle.
D'accord, le texte il date du 15 ou 16e ouais. siècle, mais la musique de Alenka, c'est à peu près les années 20.
La musique, c'est les années 20, et on va peut-être un peu parler de musique pour faire le lien avec la musique arabo-andalouse, ce qu'on appelle la musique arabo-andalouse, si ça te dérange pas.
Ah non, bien sûr, on est là pour ça.
Donc maintenant, il faut revenir un peu à la sociologie ou voir l'anthropologie de cette musique chabi. Qui est né du coup dans un milieu prolétaire qui était à Alger autour du port, des dockers, des gens très fréquentables et d'autres peut-être un peu moins, ce qu'on appelle un peu le milieu, dans aussi des buveries, des fumeries, dans différents lieux, dans des lieux très, très aussi respectés, respectables entre guillemets. En opposition un peu à une musique qui était là, qui était une musique de notable, qui est ce qu'on appelle la musique arabo-andalouse, que moi je préfère appeler maghrébo-andalouse, quoi. C'est une musique un peu savante qui vient d'Andalousie, qui était jouée dans les palais en gros, qui est restée chez certaines notables et bourgeois, voire des aristos algérois, algériens, qu'à un moment donné, ces jeunes-là, ils ont dit pourquoi pas. Nous, on va faire cette musique-là, mais on ne va pas la faire d'une manière classique et académique telle qu'elle est. Donc, on va s'inspirer des modes musicaux, sachant que la musique chabi ou la musique arabo-maghrébo-andalouse, c'est musique modale et qui n'est pas une musique tonale à la différence de la musique classique, on va dire européenne, ou d'autres musiques d'ailleurs. Donc, ils ont emprunté à cette musique sa structure ou sa théorie musicale pour en faire une liberté d'expression et instrumentale. Parce que, par exemple, le mandol ou le banjo, jusqu'à aujourd'hui, quand on enseigne la musique arabo-andalouse, ou enfin maghrébo-andalouse, en Algérie, il y a trois écoles, celle de Tlemcen à l'ouest, celle de Alger au centre et celle de Constantine à l'est. Pratiquement, le banjo reste toujours encore un instrument banni, quoi, parce qu'on est dans un classicisme et... Et cette musique, quand elle était née, elle était un peu mal vue.
Du coup, il y a un rapport de classe, en fait.
Un gros rapport de classe, ouais.
C'est pas une... Le chabi, il n'a pas été pratiqué de base par les mêmes notables qui jouaient la musique maghrébo-andalouse, plus savante, plus institutionnelle.
Pas du tout. C'est arrivé jusqu'à ce que les représentants de cette musique, on va dire notable, refusaient de partager la scène ou la soirée avec des joueurs de musique chabi.
Il y a des anecdotes réelles comme ça.
Il y a des anecdotes qui m'ont été racontées, mais je ne prépare pas trop rentrer dans le détail ni prononcer.
Non, bien sûr, je comprends.
Des noms parce qu'ils sont un peu connus et puis ça, c'est un peu de l'histoire anecdotique. Je pense que ça apportera rien à notre propos et ça évite de blesser certaines personnes.
Bien sûr. Mais je trouve ça intéressant historiquement. Est-ce que du coup. Cette musique-là, la musique chabi, elle a parlé de ça. C'est-à-dire soit de son lien avec la musique, soit peut-être de politique, en fait. Est-ce que ça a été un sujet à un moment de dire on représente peut-être certaines personnes et pas d'autres, ou on représente une manière de vivre ?
Tout à fait, tout à fait. Là, on est dans les débuts. Je suis resté dans les années 20. C'est une musique vivante. Donc, on va arriver petit à petit à l'évolution de cette musique-là. Donc là, on est avant l'indépendance. Déjà, pendant la guerre d'Algérie, il y a eu... L'Anka, il avait écrit. Là, on commence à écrire aussi de la musique dans la musique, pas rechanter que des anciennes poésies, commence à écrire de la musique et on sort aussi petit à petit de ce format de 45 minutes pour revenir un peu à un format, on va dire, plus standard, et c'est parce que l'industrie musicale est passée par là. Donc à l'époque, mettre sur un vinyle voilà, un CD de 45 minutes, c'est pratiquement impossible, quoi.
Ouais.
Donc oui, les producteurs imposaient un peu, m'ont donné des formats qu'il fallait réduire jusqu'à ce qu'on arrive à un format dans les années 90, c'est le classique de 7 minutes, quoi. Dans l'évolution de cette musique. Et Lanka, oui, il avait chanté une chanson qui s'appelle Ashqi Firnata, qui est censée être une façon de chanter la liberté et l'indépendance de l'Algérie, avec, on va dire, un nom de code, qui est Firnata, qui est très difficilement traduisable, mais on peut dire qui est quelque chose du sens androgène.
Ok.
L'androgénéité. En gros, donc il lui disait, bon, mon rêve c'est l'androgénéité, mais c'était comme un nom de code pour parler de la liberté et de l'indépendance algérienne. Parce que l'Anka, il a été engagé, mais il a aussi eu une histoire où, bah, on va dire, entre guillemets, il a continué à faire de la musique, donc pour certains, il a continué un peu à collaborer. Mais moi, je peux comprendre tout à fait qu'un artiste... ne soit pas forcément intéressé par la politique ou continuer à faire son art, on n'est pas forcément un artiste engagé, mais même si je pense qu'il était engagé. Parce que juste après l'indépendance, il a chanté une chanson qui est aussi une chanson mythique, et Alhamdoulilah Mabrachistar Marfe Bladna, il remerciait Dieu en quelque sorte, Alhamdoulilah, qu'il n'y a plus de colonisation dans notre pays. C'est aussi une chanson culte. Et. Par la suite, à la fin de sa vie, il a fait une musique autobiographique écrite pas par lui mais par un ami à lui qui dit Subhanallah ya Latif anta li ta'lam. Là, il parle un peu, c'est une musique autobiographique, donc quand il a commencé, là où il a commencé, comment il a été traité, comment il a été vu, parce que l'Anka, on va dire, il a été vu très mal par déjà ses coréligionnaires, sa population, on va dire, arabe et musulmane au début, et aussi par l'administration coloniale. Il y a eu des enquêtes parce que c'était un peu le milieu, et quand il y avait commencé le mouvement nationaliste, ça se passe toujours les révolutions dans des milieux prolétaires, hein. On apprend ça à personne, quoi. Et là, et du coup, il y a eu des enquêtes sur lui. Et il y a même aujourd'hui, enfin, des documents d'archives qu'on peut retrouver sur Internet, ou des enquêtes de la police secrète, entre guillemets, qui ont enquêté sur l'Anka et qui finalement l'ont censé pour dire, bon, il est dans le milieu, mais il n'a pas des activités très, on va dire, très terroristes, entre guillemets, telles que c'était vu à l'époque.
Mais ça, c'est les institutions religieuses et politiques, notamment françaises à l'époque, mais les gens. Le grand public.
Non, le grand public, quand il a commencé l'Anka, peut-être qu'il était un peu mal vu, mais après, l'Anka est devenu une star absolue à Alger. Je pense que les débuts, ils étaient difficiles, mais à partir des années 50, c'est devenu vraiment, même fin des années 40, vraiment une star où toutes les fêtes de mariage se faisaient avec l'Anka, quoi. Et il régnait sur tout Alger, en quelque sorte. Sachant qu'il faut préciser que cette musique-là, même s'il y a eu quelques enregistrements, on ne la consomme pas sur les enregistrements studios. Je pense que c'est peut-être un peu 5%. Et tout le reste, c'est les soirées qui se passent généralement la nuit.
Ouais.
Les soirées de fêtes de mariage. Oh, on écoute pendant 4-5 heures le chanteur se produire, généralement en plein air. Ça a commencé un peu dans la Casbah, sur les toits de la Casbah, ou dans les, on va dire, dans les patios des maisons sous les galeries. Et ça durait toute la nuit jusqu'à l'aube, quoi. Donc on écoute beaucoup les enregistrements, donc live, de ces fêtes, parce que après, dans le Chabi, il y a eu toutes des mélomanes à un moment donné, quand l'Anka, quand Zahi, quand un autre va jouer quelque part, il y a des gens qui ne sont même pas invités, mais qui y vont quand même pour un peu enregistrer, etc. Et puis à un moment donné, les cassettes, c'est devenu un trésor, quoi. Enfin, heureusement que c'est aujourd'hui, grâce à Internet, que ça s'est démocratisé. Moi, je me rappelle quand j'étais un peu jeune, pour trouver certaines perles rares, les gens les gardaient jalousement, quoi.
Ok. Et c'était beaucoup d'enregistrements de live, du coup.
C'est que des lives, ouais.
C'est que des lives, ouais.
Donc tu peux trouver des enregistrements de bonne qualité, d'autres qui sont un peu de moins de qualité. Mais on a tellement pris l'habitude, enfin je parle pour moi personnellement, je suis un mélomane et je pratique aussi cette musique, tellement eu l'habitude de l'écouter avec ce grain. C'est un peu comme un grain de vinyle, etc. Qu'aujourd'hui, si j'écoute un Chabi sortait tout pur, bien arrangé, bien d'un studio, quoi, il me manque un peu quelque chose, quoi, comme un sel.
En plus du grain, il y a la vie, presque on entend le public.
C'est ça, les you-you des femmes autour.
Puis on sent que c'est dans la résonance, quoi, tu vois. Ouais. Le son, il n'est pas mat, il n'est pas étouffé, il est...
Tout à fait.
Oui, je comprends.
Tout à fait.
Et du coup, il n'y a jamais eu une production qui s'est installée, des producteurs qui ont voulu en faire quelque chose. C'est resté quelque chose de très vivant pour toi, de très dans la rue ou dans les soirées, dans les fêtes, qui appartient aux gens?
Ah oui, c'est quelque chose de très vivant. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ça reste vivant. Ça reste vivant en Algérie, ça reste vivant à Alger, ça reste vivant en France.
Enfin, ça se pratique comment, je veux dire, dans quel cadre, toujours le même par rapport aux autres styles de musique qui ont pu naître en Algérie, comme le raï ou pas? Quelle place a le Chaabi en ce moment?
Le Chaabi, il avait une place privilégiée dans les années 40-50. Petit à petit, après l'indépendance, les années 70, c'était quand même apogée aussi avec l'arrivée d'Amar Zahi et d'autres générations dont je vais parler tout à l'heure. Mais petit à petit, les jeunes Algériens, ils ont commencé à être attirés par la musique, on va dire, universelle des années 70, quoi. Tout ce qui est blues, rock, musique ABBA dans les années 80, la pop, tout ça. Donc, ils commençaient à avoir un petit déclin dans le Chaabi. Et même s'il restait quand même des gens qui écoutaient le Chaabi et des vrais inconditionnels du Chaabi, les années 90... Comme tout le monde sait que l'Algérie est passée par la dessinée noire avec des gros problèmes de sécurité, c'était un peu la tombe de toute activité artistique sur tous les domaines. Donc il y a eu quand même un grand vide, même si il y a eu d'autres personnes qui ont continué à jouer à ce moment-là, ou beaucoup aussi sont arrivés en France. Il y a beaucoup de, on en parlera aussi après, il y a beaucoup de chansons Chaabi qui sont devenus des tubes et qui font partie de la nouvelle génération, ce qu'on appelle le néo-Chaabi. Ils ont été aussi écrites et produites ici en France pendant cette décennie noire. Et heureusement, après la décennie noire, début des années 2000, il y a eu quand même un retour du Chaabi. Et moi, aujourd'hui, je suis très content de ce qui se passe en Algérie. C'est que la jeunesse continue à faire du Chaabi. Le Chaabi inspire aussi d'autres musiques. Il y a énormément de projets en Algérie ou ailleurs, en France, sur des fusions Chaabi jazz ou autre chose. Donc pour moi, c'est une musique qui a connu quand même des hauts, certainement, beaucoup de hauts et des bas, mais au point où les années 90, on pensait qu'on allait tout perdre, mais en fait, elle est revenue en France et avec une jeunesse. Donc c'est ça qui est aussi encore intéressant, avec une jeunesse qui continue à l'enrichir, que ce soit au niveau des paroles, que ce soit au niveau des orientations, que ce soit au niveau des improvisations, que ce soit aussi au niveau des techniques de jeu qui aussi s'améliorent. Donc moi je pense que le Chaabi est toujours vivant.
Et Chaabi, alors qu'est-ce que ça veut dire? D'où il vient ce mot? Tu nous disais tout à l'heure que c'est un mot qui a été donné par un journaliste?
Ouais. C'est un mot qui a été donné par quelqu'un qui était à la tête de la radio, Boudali Safir, qui était en charge de la programmation de la musique indigène. Ça s'appelait comme ça à l'époque.
C'est dans quelles années?
Sous la colonisation, je pense que c'était dans les années 50. Parce qu'il y a 50, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 58 ou avant, parce qu'il y avait le plan de Constantine. Je pense que c'est à ce moment-là où il y avait, vu qu'il y avait la guerre, etc., l'administration française a décidé d'ouvrir un peu et de s'intéresser un peu à toutes les cultures indigènes qui étaient là-bas pour leur donner un espace d'expression. Et du coup, il avait une radio avec trois programmations musicales indigènes qui étaient tout ce qui est un peu kabyle, donc une émission de musique kabyle, une émission de musique bédouine et une émission de musique, il ne savait pas comment la nommer. Et c'est ce monsieur-là qui a dit on va l'appeler Chaabi, et Chaabi ça veut dire populaire, tout
d'accord,
simplement.
Ok.
Donc c'est la musique populaire d'Alger. Et là, il faut faire une différence parce que tu vas trouver beaucoup de musique qui s'appelle Chaabi au Maghreb. T'as un Chaabi au Maroc qui a rien à voir avec cette musique-là, mais qui s'appelle Chaabi parce qu'en fait, finalement, il s'appelle musique populaire.
Ouais, ouais.
Donc, on peut appeler musique populaire Qatar avec une musique populaire
égyptienne
ou alsacienne ou bretonne. Ouais.
C'est un mot arabe qui veut dire populaire.
C'est un mot shabi, ça vient du shab et ça veut dire populaire.
D'accord. Et alors, tu nous parlais d'Amar Isaïe.
Ouais, donc on peut un peu l'écouter, tu veux.
Okay, si tu veux, sauf si tu veux nous en parler avant.
Amar Isaïe, c'est un peu la nouvelle génération de réformateurs par rapport à ce Anka, qui lui-même était un réformateur de la musique, mais qui a installé à un moment donné, par force des choses, un certain classicisme. Et c'est un peu l'école classique du Shabi, c'est l'Anka, si tu veux.
Ouais.
En plus, parce qu'il l'a académisé en quelque sorte, parce qu'il l'avait enseigné. Et Amar Isaïe, c'est un génie de la musique qui vient aussi pratiquement du même village de l'Anka, parce que ça aussi, il faut le préciser. C'est que l'Anka, il est d'origine kabyle. Il est né à Azfoun. Amar Isaïe aussi, il est né à Azfoun. Il y a énormément d'artistes qui sont sortis de ce petit village, mais c'est vraiment un petit village au bord de la mer. Et il a un secret, ce village, mais parce que c'est des écrivains, c'est Siyaham pour parler de peinture, c'est des gros intellectuels.
Azfoun.
Azfoun, je crois.
Ok.
Et c'est un petit, c'est pas très loin d'Alger, hein, c'est à 100-150 km. Et c'est aussi en lien toujours avec cette histoire de prolétaire, parce que la Kabylie a toujours été un peu pauvre, surtout pendant la colonisation. D'où tous les mouvements migratoires, que ce soit ici en France. Il y en avait aussi des mouvements migratoires qui sont venus à Alger, même s'il y a toujours des Kabyles à Alger. Et ces gens-là, ils étaient donc, du coup, dans ce milieu-là. Ils venaient pour travailler parce que c'est la capitale, parce que là, c'est là où il y a plus de travail. Donc, dans des habitats pas forcément top, etc. Et, mais il y avait aussi cette mouvance culturelle qui a créé une synergie. Donc, c'est un peu la Kabylie, la barbarité qui s'est mélangée aussi avec un peu d'andalou, un peu de turc, un peu d'arabité, tout ça, et qui a donné ce genre musical. Sachant qu'il faut préciser aussi que dans le shabi, il y a un shabi qui est chanté en kabyle, c'est-à-dire en langue berbère, ce qu'on appelle nous simplement shabi kabyle, quoi, le shabi algérois et le shabi kabyle, qui est aussi très 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 riche et qui ressemble entièrement au shabi algérois, mais qui est chanté avec la langue kabyle.
Et du coup, qu'est-ce que Amar Isaïe il apporte? Tu me dis pourquoi c'est un réformateur, lui, musicalement? C'est les années 70-80?
C'est les années 70, ouais. Amar Isaïe apporte une fraîcheur, il apporte une liberté dans l'interprétation. Amar Isaïe, quand il est arrivé à Alger, je crois qu'il avait 7 ans, qui était même pas arabophone, qui était que berbérophone. Il a commencé par faire de la musique classique, du piano, à la rue Charras, chez une Allemande, à Alger. Et après, par la suite, il fait pliter plus fan de Frank Sinatra, on va dire, que l'Anka. Donc, quand il était tout jeune, on lui parlait de l'Anka, pour lui, c'est des vieux. Et puis, petit à petit, quand il est rentré dans ce domaine-là, il est devenu un virtuose, quoi. Et c'est un personnage un peu unique, parce que c'est un personnage très profond. Il est unique dans sa musique et il est aussi unique dans sa personne. C'est quelqu'un, par exemple, qui est très, très humble. C'est quelqu'un qui a toujours refusé, on va dire, de travailler avec l'institution. Même si c'était l'institution algérienne à l'époque, il a fait genre 2 concerts, mais lui, il peut remplir un stade, le stade de 5 juillet qui fait 70 000 supporters, enfin personne. Il peut le remplir en une semaine, sans cesse, quoi. Donc il était très très aimé, mais on l'écoutait que dans les soirées de mariage. Il faisait pas de concerts et il a quitté un peu tout ce qui est, enfin, sous l'égide du ministère de la culture pour se consacrer à la société. Et pour lui, c'était comme une mission.
Et au niveau des textes aussi, il y a eu quelque chose qui a changé? C'était lui qui écrivait ou c'était d'autres gens qui écrivaient? En tout cas, c'était plus forcément des poèmes ou des textes soufis des siècles d'antan. C'était des choses qui ont été écrites sur le coup.
C'était des choses qui étaient écrites sur le coup, pas par lui. Non, il y avait toute une émulation autour de lui, beaucoup de poètes qui écrivaient pour lui. Il y avait aussi, ça il faut aussi le citer, c'est Mahboubati aussi, qui était un musicien et qui faisait de la composition musicale et aussi des textes, et qui les donnait spécialement à certains chanteurs. C'est-à-dire, vu qu'il les connaissait bien, donc ouais. Il y avait lui, il y avait Grouabi, il y avait d'autres, on ne va pas les citer tous. Donc il créait une musique pour la personne, parce que cette personne-là avait les paroles correspondaient bien à sa personnalité et puis par rapport à sa voix et par rapport aussi à comment il joue la musique quoi. Et là c'était vraiment des succès et ça c'est des et ça parlait ouais là on sort un peu de tout ce qui est soufi et ça parle d'amour, ça parle de femmes, ça parle de fêtes, ça parle de société, ça parle de rapport d'amitié, ça parle de la vie quoi en général.
Et alors la musique qu'on va écouter, comment elle s'appelle et de quoi elle parle cette musique?
La musique qu'on va écouter, je t'avais passé laquelle? Ouais, Rabouta Djel Melahfia. Là, on est encore dans un registre soufi, par contre. Mais on okay. va voir que la différence de l'interprétation et de la voix et de la musique est complètement différente par rapport à l'encre.
On écoute ça tout de suite.
صبر الفرار علتي نجري فيه وك ما عييت حتى تنقضى حاجتي إذا وفيت ما بغيت منك يا روح راحتي نصبر ونقول ما مشالي تمجيدي في البحر وانا المولوع بنظام نسمع حس الحسود فيا وتكدر بعد ما صفى وين العهد الموثق وحنا خواب الاخصام ما تسمع للعذا كلام واليوم انا ضحيت العدو عدايا لي كرايفه كنتي بقريب حال روحي وانا مملوكك الغلام نخدم من قبل الزحام ونبايع لك حين ننظر وجهك كشارد العفام نحس لك صاحب القفا في بيات الغزل والنظام وتوجعه مالها تمام نفهمك صاحب الكياسة والرافة والمسعفة رغبو تاج الملاح فيا يحييني غير بالسلام راح يصير تفهم الأخير في من جفا حبيبه بعد أيام الموالفة جوزت من وقت كنت مغطي بثوبها تسوى الياقوت والتقات والسعد استقام منتهى الكاس ندام وجرات والخمر حلات شربها ما تسمع غير كبهات والشمس بحر ضيها وين يا مزه والفايت وانت نشوان بالمدام ما اللي في بساطنا يحجبك من عيون الاعداء وخلي الاهتام بابا صادق جميع من يحدث مدام الدهر كل عام لو كان تدوم القدام لو كان الشمس في سماها تبقى ديما مشرفة اصبر يا خاطر يجوزك مرض اللي هو في الحكام احلف في الساعة بالاستقام ما عندي ما ندير نطلب الله يجود بالشفاء رغبو تاج الملاح فيا يهديني غير بالسلام ونراعي سيرة الكرام الأخير في من جفا حبيبه بعد أيام الموالفة.
c'était Amar et Zahi sur Radio Galère. Vous êtes toujours sur La Rosée 88.4. On est avec Oussama et on parle de la musique Shaabi. Amar et Zahi.
Amar Zahi, alors, comme on vient de l'écouter, donc c'est une nouvelle voix, c'est une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Une personne exceptionnelle aussi. C'est-à-dire que lui, il a voulu faire toute sa carrière en dehors de tout ce qui est institutionnel, en dehors de tout ce qui est art sous égide de quoi que ce soit. Même il a fait deux concerts dans de grandes salles, trois albums quand même enregistrés, et puis il s'est retiré quand même complètement de ça et il s'est consacré à une œuvre sociale. Pour lui, la musique, c'était une œuvre sociale, dans le sens, je peux raconter une anecdote qui a été relatée par plusieurs personnes. C'est qu'à un moment donné, il était toujours avec son bleu de Chine. Au jardin, au square, tranquille, et puis il recevait limite les commandes là-bas. Et donc, il est très timide, et il y a une dame qui vient le voir pour dire, ouais, mon fils, il t'adore, dis-moi, enfin, il adorait que sa fête de mariage soit faite par toi, etc. Donc, elle a commencé un peu à lui parler du cachet, pour lui, pour les musiciens. Il lui a dit, non, madame, vous inquiétez pas, dites à votre fils qu'il vienne jeudi prochain, et on va en discuter avec lui. Le fils, il arrive, il lui dit, bon, ça, il est fan absolu, donc déjà, il n'arrive pas à croire ses yeux, quoi. Et il lui dit, ok, pour le cachet, il lui dit, non, vous inquiétez pas, le cachet, je me suis entendu avec votre maman et c'est bon, c'est réglé. À la fin de la soirée, la maman vient le voir pour dire, bon, votre cachet, c'est combien finalement? Il faut qu'on vous paye, parce qu'il y a les musiciens aussi, il faut que vous payiez tout le monde. Il lui a dit, non, vous inquiétez pas, votre fils m'a payé. Et le fils vient le payer, il dit non, vous inquiétez pas, votre maman va payer. Et lui, c'est paye les musiciens.
Il a semé la zizanie, en fait. Non, je sais quoi.
Ouais, mais
l'inverse de la zizanie.
L'inverse de la zizanie. Amar Zahi était comme ça. Amar Zahi, il a fait jouer plusieurs musiciens avec lui. Les plus gros musiciens qui jouaient aussi, eux, dans l'institutionnel, dans la radio d'Alger, etc. Voulaient venir jouer avec Amar Zahi, parce que quand tu joues avec Amar Zahi, tu t'éclates musicalement. Tu sors de ta routine. Et il faut Amar Zahi, d'une fête à une autre, la chanson n'est jamais jouée de la même manière. T'es vraiment dans la création, t'es vraiment dans la performance, en sens comme on parle aujourd'hui de performance comme une expression artistique, quoi. Il est vraiment dans la performance et c'est quelqu'un, je veux dire, d'exceptionnel. Il s'est jamais marié de sa vie, il est mort seul, mais je pense que son enterrement en Algérie était porté par tout le peuple algérien.
Ouais.
Tout Alger était blindé. Même des présidents rêveraient d'avoir une liesse populaire comme Amar Zahi l'a eu, tout en vivant, tout simplement. Donc je voulais quand même dire ces mots-là de Amar Zahi, que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, Rahimou. Et depuis son départ, Alger est resté un peu orpheline jusqu'à aujourd'hui, même s'il y a encore un peu de Shaabi, mais la place d'Amar Zahi reste unique. Pour parler aussi de cette génération, on peut aussi parler en parallèle, parce qu'il y avait Dahmal Harachi qui était aussi la même génération d'Amar Zahi. Dahmal Harachi qui est connu un peu en France sous, par la chanson Ya Rayah, qui a été très très connu après internationalement, grâce à Rachid Taha et peut-être un 2-3 soleils aussi, il faisait partie d'un 2-3 soleils, mais qui n'était pas forcément connu dans son vivant. Elle a été connue après il a eu malheureusement un accident de voiture et il nous a quitté. Dahmal Harachi, c'est intéressant parce que c'est aussi un versant du Shaabi qui parle de la société. Dahmal Harachi, il parle plus des rapports humains. Ahmar Harachi, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'honneur, tel qu'on peut entendre par rapport au bandit d'honneur, entre guillemets.
Ouais.
Et il chantait beaucoup ça. L'honneur, on dit Rjla, c'est un mot algérien qui définit un peu quelqu'un qui a des principes et qui est intransigeant avec ses principes dans les rapports avec lui-même et avec les autres. Donc il a parlé beaucoup de ça. Et Ahmar Harachi, c'est quelqu'un qui a toujours vécu pratiquement en France toute sa carrière. C'est quelqu'un qui est venu avec cette vague d'immigration où la France demandait beaucoup d'ouvriers algériens pour qu'ils viennent travailler en tant qu'ouvriers dans les usines. Il a fait aussi les usines, je crois, de Renault ou de Citroën ou dans la région parisienne. Et toute cette musique là, en fait, géographiquement, c'est une musique française. D'ailleurs, c'est dommage que la France ne s'intéresse pas trop à cette musique pour la reconnaître comme une musique qui s'est produite sur, sur son territoire, sur sa géographie, et qui racontait aussi de la sociologie de ces gens-là, dont ça racontait l'exil, ça racontait leurs conditions de travail. Ils étaient très, on va dire, politisés dans le sens où il y avait beaucoup de syndicats, ils étaient dans les syndicats ouvriers, etc. Donc ils faisaient aussi des soirées pour les syndicats ouvriers, il y avait des bars où ça se produisait beaucoup, il y avait les scopitones à l'époque aussi, où il y avait des scopitones quand tu rentres dans le bar, c'était, je sais pas si tu vois ce que c'est,
non.
Tu mets une pièce, et que c'est pas un jukebox, c'est une vidéo.
D'accord.
Donc ils produisaient, il y a des trucs collector, sont magnifiques, avec... Il y a Nana qui danse à la Abba, etc. Et puis il y a Dahmal Harachi qui entre au milieu, qui chante le chardonneret. Parce que le chardonneret, c'est aussi un symbole aussi du Chabi. Parce que si on est dans le cliché, un titi du Chabi, c'est bleu de Chine, chardonneret et la menthe. Un peu comme ça, se poser sur l'oreille pour donner un peu de l'odeur. Et le Chabi.
Mais du coup, ce qui est beau, ce qui est intéressant dans ce que tu nous dis, c'est le lien qu'il y a... et qui n'est pas assumé par la France, mais entre cette musique algérienne et la France, à travers la vie de Dahman Al-Arachi qui vivait en France, et qui peut-être même, par exemple, tu me dis qu'il était proche de certains groupes politiques ou syndicats, peut-être qu'il connaissait le MTA, le mouvement des travailleurs arabes.
Certainement.
Je sais que c'était la même période.
Certainement.
Et d'ailleurs, Ya Rayah, qui est quand même très connu, et qu'on va vous faire écouter, et que, auditeur, auditrice, tu connais forcément, que tu sois arabe, maghrébin, français, chinois, japonais,
indien.
Elle parle de quoi cette musique? Tu peux nous dire un peu certaines phrases, certains mots, parce que c'est quand même très puissant.
Ya Rayah Win Msafer, en fait, c'est ouais, c'est puissant et c'est un peu curieux par rapport, on va dire, à l'environnement politique aujourd'hui. C'est une chanson anti-immigration en quelque sorte, parce que là, il parle un peu de la désillusion de l'immigré et il le dit. Ya Rayah, ça veut dire toi. Le partant qui part et qui quitte son pays, tu vas aller, tu vas te fatiguer, tu finiras par revenir. Je le dis vraiment d'une manière pas très poétique, c'est une traduction littérale, mais en fait ça chante un peu ça. Et il avait une autre chanson à lui qui s'appelle là où il dit moi ça je l'ai vécu, parce qu'à un moment donné je suis rentré en Algérie d'une manière définitive. Moi je suis né là-bas et je suis arrivé pour continuer mes études à 22 ans, donc je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, et à un moment donné j'ai décidé de rentrer pendant un an et demi. J'avais compris cette chanson pour la première fois en fait. Ouais. Quand tu pars et quand tu reviens, c'est comme si tu laisses pas de goût en fait. En gros, le gusto, enfin le goût, tu te trouves plus. Un peu, il y a quelque chose qui est perdu de là où t'es parti, parce que t'as pas suivi la continuité des gens qui ont vécu là-bas, et t'es parti là-bas, mais bon, t'es maintenant en train de revenir, donc t'as laissé aussi quelque chose là-bas, et du coup finalement tu perds beaucoup de choses, comme on dit, enfin je sais pas qui a dit ça, partir un peu c'est mourir beaucoup quoi, enfin c'est un peu ouais. Je sais pas si le message est passé.
Non mais je comprends. Et ben on fait une écoute.
Yalla.
Ya Rayah, Dahman Al-Arachi, c'est tout de suite sur la rosée.
Thank you. تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي شفت البلدان العامرين والبر الخالي شحال ضيعت وقت وشحال تزيد ما زال تخلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري ليك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر نروح تعيا وتولي شحال نقول العباد الغافلين قبلك وقبلي
Rahman El Arachi, Yaraya, une musique qui parle de l'immigrant, du migrant qui s'en va et qui reviendra.
Tout à fait, ouais. Rahman El Arachi, comme je t'ai dit, il a chanté aussi l'amour, mais il a chanté beaucoup les problèmes de migrants, notamment l'alcoolisme, parce que c'était un vrai fléau à l'époque,
ouais.
Dans ces milieux-là. Et aussi, ce qui se pratiquait beaucoup, c'était que les gens arrivaient ici et laissaient tous leurs enfants, leurs familles, avant qu'il y ait la possibilité du regroupement familial, d'ailleurs, qui aujourd'hui est décrié. Mais c'est des gens qui ont quand même construit la France un peu de partout et travaillaient du matin au soir dans des conditions qui étaient horribles un peu. Leur seul un peu lien avec l'Algérie, parce qu'ils n'avaient ni de famille, ni leurs enfants ici, c'était d'aller dans des bars pour écouter ce genre d'artistes qui les ramenait qui vers le pays et qui avec qui ils pouvaient échanger aussi et se sentir un peu écoutés, un peu compris parce qu'ils étaient complètement invisibilisés. C'est ce que je voulais dire
et
par
du coup
à
tu
ça.
Penses qu'il y a eu une évolution ou quelque chose qui a un apport différent dans justement ce lien entre la France et la manière dont les Algériens qui vivaient en France, ils vivaient leur culture en France, que ça a apporté quelque chose de différent après la décolonisation?
Oui, je pense notamment parce que d'ailleurs ses enfants sont encore en France. Il y a un de ses fils aujourd'hui qui est un chanteur et qui fait pratiquement tous les. Il a pu rentrer dans toutes les institutions, on va dire, enfin que ce soit l'Institut du Monde Arabe ou que ce soit la Radio France ou que ce soit ailleurs. Donc un peu ça continue et puis après avec l'arrivée du rail, cette chanson a été un peu mise on va dire en lumière plus que d'Ahmed El Arachi peut-être il pensait un jour,
ouais.
Et du coup ouais, ça a pu permettre à faire connaître un peu la musique algérienne ou la culture algérienne à travers la musique et je pense que c'était un peu forcé, c'était pas forcément facile pour que tout ça émerge mais que tout ça soit reconnu, je pense, dans son attrait, qu'on sorte un peu du cliché, parce que Yaraïa, ça reste un peu cliché. Yaraïa, on va danseuse de ventre, et puis on va bouger un peu les. Je pense qu'il faut s'intéresser à ça un peu plus profondément,
ouais, bien sûr,
pour comprendre un peu le sens des paroles, parce que c'est justement un sens qui est profond et qui est sérieux et ça nous empêche pas de faire la fête non plus.
Ouais, avant qu'on parle d'un dernier artiste de la musique Chaabi, j'aimerais juste, petite parenthèse, c'est quoi pour toi le lien entre le Chaabi et le Raï, et quelle est la place du Raï dans l'évolution de la musique algérienne, parce que c'est quand même très connu, la musique, le Raï dans le monde entier. C'est quand même une musique qui m'a l'air populaire, mais d'où ça vient? Est-ce que ça s'enchaîne? Est-ce que ça se lie? Est-ce qu'il y a des liens? Comment ça se passe?
En fait, on va dire les racines du Raï poétiquement et les racines du Chaabi poétiquement, c'est les mêmes.
Okay.
C'est-à-dire que ce corpus-là de ce qu'on appelle la poésie melhoun, Sha'r al-Melhoun, c'est la poésie, comment dirais-je, l'ahn, c'est la mélodie. C'est une poésie mélodieuse, c'est-à-dire que c'est une poésie écrite à la base pour être chantée.
D'accord.
Donc déjà dans sa métrique littéraire est faite pour qu'elle puisse à un moment donné épouser une métrique musicale. Donc ça c'est les origines du Raï puise dans ce corpus, on va dire poétique. Chaabi c'est pareil. Après il y a une distance géographique, c'est-à-dire que c'est une expression populaire par rapport à une distance géographique qui fait genre 700-800 kilomètres, qui vit pas, on va dire, la même dynamique culturelle et civilisationnelle. Nous, enfin Alger, Loranais, ils parlent un peu différemment, ils vivent son espace un peu différemment, ils font la fête un peu différemment. C'est une question de nuance et du coup, ça a donné un genre musical qui est très populaire, pareil, mais qui est un peu différent.
Parce que le Raï, c'est Oran.
Le Raï, c'est Loranais. Parce que si tu dis Oran, les gens de Belabas, ils vont pas être contents. Si tu dis Belabas,
ouais,
on va dire c'est toute cette
métropole d'Oran.
C'est la métropole d'Oran. Après oui.
À côté, tout le monde.
Après oui. Enfin et après le Raï, il est aussi bédouin. Le Raï, il a aussi un lien très très ancré avec le terroir, un peu avec aussi les villages,
ouais, bien sûr,
etc. Après oui, bien sûr, il a pris un peu son apogée et sa diffusion par les grandes villes. Et après Oran, c'est une ville festive, quoi, ce qu'on dit, c'est Las Vegas de l'Algérie. Donc il y a aussi ce Raï là, mais qui parle à peu près des mêmes sujets. Et t'as aussi du Raï enfin ancien qui aussi à un registre poétique qui puise aussi dans tout ce qui est soufi et religieux aussi.
D'accord. Et tu voulais également nous parler de Kamel Messaoudi ?
Je voulais parler de Kamel Messaoudi aussi pour illustrer. Donc là, on parlait de la deuxième génération après l'Anqa, donc la génération d'Amr Zahid, Ahmed Harrachi, cette génération un peu qui a encore évolutionné le Chaabi dans les années 70. Fin des années 80, début des années 90, donc une nouvelle jeunesse, un nouveau contexte en Algérie. Les événements de 88, octobre 88, la jeunesse qui se révolte, c'est un peu, on va dire, le 68 algérien, c'était en 85. Et puis le passage brutal du communisme à l'économie du marché. Début de la guerre civile, etc. Donc il y a une nouvelle génération avec de nouvelles inspirations et ce qu'on appelle le néo-Chaabi, parce que c'était aussi un débat chez les puristes pendant un moment qui ne considéraient pas forcément cette musique comme du Chaabi, mais plus comme de la pop algéroise en quelque sorte. On va le comprendre peut-être en illustrant cette musique rapidement et on reviendra pour expliquer tout ça.
Allez, très bien, c'est parti. Tu peux nous dire le titre de la musique ?
Yahsar alik ya dunya.
هكذا حقدا وسمية ضلي تبدلي في الصفات تقد بي فيا غير بشوية عيت مع دابك باركات بيبيا ولا معايا جاوبيني على شهاد سكات قالوا لي عليك مسرحية أنا المسرح سكن اللي في الدار تذكيرة خلصتها غالية ديت معايا شي وردة دخلت للقاعة صفق عليا طلع سيطار وضو وطفات لقيت روحي في تمتيلية والديكور خوف ودموعات طمعتيني وضاقي عليا عندي جدي بالصحنة أحصر عليك يا دنيا فيك حكاية حكاية سميني وقعد حدايا وحكيهم اللي بيتبا ليش أقدا حقدا وسمية ضلي تبدلي في الصفات تعذبي فيا غير بشوية
Voilà, on écoutait du coup Kamel Mesoudi, l'ayarhamou, c'est un défunt, il est mort jeune aussi dans un accident de voiture, d'ailleurs comme Dahmel Harachi, mort dans un accident de voiture. Et les deux aussi avaient cette... c'est une coïncidence en fait, j'y pense maintenant, ils habitaient tous les deux en France, à Paris. Et ils sont partis à Alger pour des vacances et ils ont... Kamel Mesoudi, c'était aussi pour faire un passage télé, je crois. Et ils ont un accident de voiture et on les a perdus malheureusement, Rabbi Yerhamhom. Kamel Mesoudi, là, on voit déjà musicalement la différence par rapport à tout ce qu'on a écouté avant. Là. Donc, on était sur une musique, comme je dis tout à l'heure, modale, mais qui se joue à l'unisson, c'est-à-dire c'est des mélodies l'une sur l'autre avec différents instruments, à une musique maintenant, chez Kamel Mesoudi, qui évolue vers une musique un peu plus, comme on appelle la musique harmonisée. Quoi. C'est-à-dire là, on va avoir des accords, on va avoir des arpèges, etc. Avec des nouveaux sujets et de nouvelles paroles. Là, c'est les paroles de Yassine Wahabed qui parle de Denia, donc il parle de la vie et comment un peu elle est devenue dure et toutes les déceptions que cette jeunesse-là, ils ont vécues. Et c'est une chanson très triste parce que non seulement il parle du passé, de ce qu'ils vivent actuellement, et puis c'était un horizon très, très, très flou parce que tous bousculés en Algérie à ce moment-là, chute du mur de Berlin, on devient, enfin, passe du communisme à l'économie de marché,
le terrorisme,
l'islamisme qui voilà, des attentats un peu partout.
Il y avait des assassinats d'artistes aussi.
Des assassinats d'artistes. Donc,
je pense à Cheb Hesni, entre autres. Mais...
De tout genre, Cheb Hesni, Matoub Lounes, tous les matins, quoi. J'aime pas, moi, faire des comparaisons. On va dire des comparaisons victimaires. Chaque personne décédée ou chaque personne victime suffit à elle-même. Mais 10 ans de guerre civile en Algérie, c'est 200 000 morts, c'est un Bataclan tous les jours. Donc je donne juste cette mesure pour qu'on puisse comprendre à quel point c'était fort ce moment-là. Et d'ailleurs qui était aussi à, par la suite chanté. Mais c'était très difficile à ce moment-là pour les artistes de continuer. Il y en a qui ont continué et c'était vraiment des courageux. Quoi. Enfin, c'était vraiment des gens qui... Bah, voilà, quand il n'y a plus d'espoir, il faut continuer.
Il n'y a que l'art.
Il n'y a que l'art. Quoi. Donc Kamel Mesoudi, avec d'autres générations... Ils ont fait un peu ce style-là qu'on s'appelle un peu Neo Shabi, qui aujourd'hui malheureusement, parce que lui c'était quand même la figure de proue et c'est lui qui a réussi quand même un peu à imposer ce style-là et à le créer. Sa disparition très rapide fait que ce style aujourd'hui, enfin, il a décliné et là comme ça de mémoire, je pense pas à un chanteur ou à ce mouvement-là de ce New Shabi tel qu'il a été fait par Kamel Mesoudi qui continue, mais le Shabi continue sur les autres formes, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce soit d'une manière dans l'école classique, dans l'école d'Amr Zahi, il y a des gens qui imitent Amr Zahi, dans l'école de Grouabi, il y a des gens qui imitent Grouabi, dans l'école de Dahman, il y a des gens qui imitent Dahman, dans d'autres gens qui imitent personne et qui essayent de percer avec leur propre voix, avec leur propre création. Donc, je suis très ravi. Après, moi, je précise juste quelque chose pour les auditeurs. Je ne suis pas spécialiste ni musicologue, je suis un mélomane qui pratique un peu cette musique, et mon métier c'est pas du tout la musique. Moi je suis architecte urbaniste, mais grâce à l'invitation de Ilan, parce qu'on s'est rencontrés sur Marseille autour de quelques initiatives de groupe Shabi ou des concerts Shabi que j'avais organisés, parce que j'avais organisé quelques concerts, j'étais aussi dans des groupes À Paris, j'organisais aussi des concerts, je manageais quelques artistes. Donc je suis, on va dire, passionné par cette musique-là. Donc s'il y a eu des contre-vérités historiques ou des spécialistes qui vont dire « Oussama, là, t'as raconté n'importe quoi », ce qui est tout à fait possible parce que le chavis, c'est un peu sacré, je vous demande pardon.
Mais on prend tes excuses, mais d'ailleurs, on va peut-être finir sur ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la musique chahabi à Marseille? Si déjà s'il y a des choses qui se passent, s'il y a des choses à écouter, ou tout simplement de la dynamique, parce que voilà, Marseille c'est une ville populaire, c'est une ville d'immigration, c'est une ville de l'arrivée comme disait Blaise Sandra, et c'est évidemment une ville où il y a eu une grosse immigration algérienne. Et comment le chahabi il existe aujourd'hui à Marseille?
Le chahabi il existe mais dans des petites bribes, on va dire. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que l'immigration algérienne en France a sa propre géographie.
Elle est à Paris plutôt.
Voilà, donc l'Algérois.
Marseille c'est Oran, c'est ça?
Marseille c'est Oran. Voilà, Marseille.
Pourquoi c'est... Tout le monde me dit ça, mais pourquoi?
Parce que, enfin, ça c'est, on va rentrer dans un sujet complètement urbanistique. Je peux t'en parler. Parce que en fait,
capitale, c'est ça?
C'est pas capitale. C'est t'as les premières personnes qui sont arrivées quelque part. Et puis l'autre, il ramène le cousin, l'autre ramène ceci, cela. Et je vais te donner, tu vois, il y a une petite ville en Algérie, c'est Tialet. Et tu vas à Francfort, on appelle ça Tialetfort. Qu'est-ce qu'il fait les Tialetia à Francfort? C'est juste, au départ, il y a eu des gens qui se sont installés là-bas. Tu vas prendre l'immigration chinoise, par exemple, à Paris, à Aubervilliers. Tous les Chinois pratiquement de Paris viennent du même village en Chine.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? C'est une logique ainsi. Même si aujourd'hui, il y a quand même un peu... Il y a quand même... Une petite scène, des gens, on se retrouve pour jouer du chahabi. Il y a quelques concerts. Moi, tu te rappelles, la dernière fois, j'avais monté un groupe, ça s'appelait Chahabi Naturals. On a fait quelques concerts à Mon Café, à plusieurs endroits. Ça continue, il y a quand même quelques personnes et on arrive quand même à faire quelque chose, à jouer. Il n'y a pas un projet, on va dire, très très sérieux. Il faut peut-être un peu le monter. Donc, d'ailleurs, je fais appel aux chahabistes.
Marseillais
pour pouvoir faire quelque chose.
Mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de musiciens algériens ou de tout autre horizon qui se mélangent musicalement à Marseille avec d'autres musiques évidemment. Mais bon, j'ai l'impression que le chahabi c'est quand même une musique populaire. Du coup, ben, peut-être qu'elle se lie avec d'autres musiques populaires.
Ah oui, tout à fait.
C'est
je
dans
pense,
son essence. Et ben, en tout cas, Oussama, merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Avec toutes ces précisions, peut-être pas professionnelles, mais en tout cas généreuses.
Merci beaucoup.
Merci de nous avoir fait découvrir tout ça. Bah, peut-être qu'on va laisser les auditeurs et auditrices sur 2-3 minutes encore de cette musique de Kamel El Messaoudi.
Parfait.
Et on se retrouve dans un mois, hein, le mois prochain, pour une autre émission de La Rosée. Troisième lundi de chaque mois de 16h30 à 18h. Merci d'avoir été avec nous. Merci Oussama.
Merci à vous.
Et à très bientôt.
سلطان كان في دنيا جيوش الأمر وطيعات مال وعز قصور وسرايا العس عليه بالألوفات غفل غفلة قلبت الحية في ليلته ما صب ويني بات وكلتي فلان عسل وفاكية وفلان شمختي له الفتات فلان قلعتي له الدرية وحياته من الفرحة خوات فلان تلاق مرته المسكية زعفكي جابت له البنات أحصر عليك يا دنيا فيك حكاية وحكاية سميني وقاعد حكاية وحدي هون اللي بيتبات ليش أقدا حقدا وسمية ضلي تبدلي في الصفات تعذبي فيا غير بشوية عيت مع قالك بركات دقيقة يحسب الوقت الشهر يحلم الشهرية يحليله مولا وليدات